tout d'abord, Pierre et Romain, de m'avoir invité à vous présenter mon travail de thèse, effectivement, une thèse d'histoire intitulée donc, La construction d'une mémoire publique de la lutte contre la mafia de 82 à 2012, autour d'un martyrologe, enfin à partir d'un martyrologe, c'est-à-dire centré sur quatre figures: Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Alors, si l'on dispose d'une solide historiographie concernant la mafia, force est de constater qu'il n'en va pas de même pour l'antimafia, qui peine encore à être considérée comme un domaine de recherche à part entière. L'antimafia apparaît certes en creux dans l'histoire de la mafia, mais rares sont les études sur les figures de l'antimafia, et a fortiori, le terrain de la mémoire était encore vierge. Selon Pierre Nora, je commence par un argument d'autorité, moins la mémoire...
Académicien en plus.
Voilà. Alors, donc selon Pierre Nora, je cite, « Moins la mémoire est vécue collectivement, plus elle a besoin d'hommes particuliers qui se font eux-mêmes des hommes mémoire. » Si nous faisons nôtre cette analyse, le manque de mémoire collective autour de la violence mafieuse révèle donc un besoin de figure tutélaire. Les victimes de la mafia apparaissent comme une sorte de support, comme le support d'une mémoire qui se construit et qui se consolide après leur mort. La mémoire de l'antimafia est donc fondée sur un martyrologe. Et donc, dans le cadre de la thèse, j'ai choisi de me concentrer en particulier sur quatre victimes, dont les assassinats constituent l'apogée des deux moments, des deux plus grandes crises de violence mafieuse dirigées contre des représentants de l'État, donc Pio La Torre, Dalla Chiesa, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Pour le contexte, rapidement, Pio La Torre, député communiste, ancien membre de la commission parlementaire antimafia et secrétaire du Parti communiste sicilien, est abattu avec son chauffeur Rosario Di Salvo à Palerme le 30 avril 1982. Son assassinat accélère la nomination de Carlo Alberto Dalla Chiesa au poste de préfet de Palerme. Il sera d'ailleurs tristement rebaptisé le préfet des 100 jours puisqu'il est assassiné avec son épouse. Trois mois plus tard, donc le 3 septembre 1982, et son agent d'escorte est également assassiné. Alors après ce triple meurtre, le gouvernement adopte enfin le projet de loi déposé par Pio La Torre deux ans auparavant, qui institue donc le délit d'association mafieuse dans le code pénal. Alors grâce à cette loi, les magistrats palermitains, emmenés par Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, peuvent mener une solide instruction qui débouche sur le premier procès de grande ampleur contre la mafia, le maxi-procès, et qui se solde donc par la condamnation des plus grands chefs mafieux. Alors, il s'agit là évidemment d'une victoire historique pour l'État italien, et en 1992, le procès se conclut en 1987, et en 1992, le juge Giovanni Falcone et son épouse Francesca Morvillo et trois policiers d'escorte sont assassinés dans un attentat à la bombe spectaculaire le 23 mai 1992. Et moins de deux mois plus tard, c'est son collègue et ami Paolo Borsellino qui est assassiné avec cinq policiers d'escorte dans un attentat à la voiture piégée à Palerme. Alors, la thèse visant à percevoir les enjeux nationaux de la mémoire de la lutte contre la mafia, j'ai dû choisir des victimes qui étaient de leur vivant, des symboles, des personnages publics qui avaient une envergure nationale. Et le statut de représentant de l'État et de symbole de l'antimafia favorise leur insertion dans ce martyrologe. Et évidemment, leur aura médiatique permet de mesurer l'impact de leurs assassinats et donc de suivre, à travers les commémorations, la construction de leur mémoire. Alors, en outre, leurs assassinats apparaissent comme des moments clés qui remettent la question mafieuse au cœur du débat politique. La dimension spectaculaire et l'enchaînement des massacres en 1992 imposent une forte réponse du gouvernement, qui réagit comme d'habitude en prenant des mesures, en adoptant de nouvelles mesures, qui étaient longtemps préconisées par la magistrature. Par exemple, il carcere duro, la protezione per i pentiti. Donc c'est donc bien la violence mafieuse au niveau local qui fait de la mafia un enjeu national. D'une part, elle contraint les dirigeants à intervenir, et d'autre part, elle fait naître une forte mobilisation civile sans précédent qui dépasse largement le seul cadre sicilien en 92. Donc traiter ensemble ces quatre victimes assassinées à 10 ans d'écart permet donc de comparer la médiatisation et la construction mémorielle à deux moments différents pour voir dans quelle mesure il s'agit des deux étapes d'un même processus. D'un point de vue historiographique, faire l'histoire de la mémoire, ce qui est l'objet de prédilection du temps présent, implique d'apprivoiser l'irruption constante du présent dans le travail historique et donc de produire une histoire qui, par définition, reste inachevée. Par les thèmes abordés, cette recherche se situe au croisement de différents champs historiographiques, comme l'histoire politique, sociale et culturelle, et plus particulièrement l'histoire des représentations. La mémoire étant un objet d'étude aussi pluridisciplinaire que la mafia et l'antimafia, il a été nécessaire de sélectionner des sources qui rendent compte de cette diversité d'approches. Alors, je vous fais la liste brièvement, mais des archives de partis politiques, des sources parlementaires, la presse locale et nationale, des sources religieuses, des publications mémorielles. Alors, il y en avait beaucoup, des témoignages écrits oraux, de la bande dessinée, de la poésie, des romans, de la littérature de jeunesse, et aussi les productions audiovisuelles réalisées pour le cinéma et la télévision. Alors, face à une telle hétérogénéité, je vais y arriver, j'ai dû composer ma boîte à outils, donc une méthodologie pluridisciplinaire qui emprunte à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie, surtout pour la dimension d'enquête de terrain, d'observation participante des commémorations, les entretiens aussi, mais aussi à l'analyse littéraire, sémantique et philologique, pour étudier toutes les formes de commémoration, hein, qu'il s'agisse de rituels civils, institutionnels, ou de représentations écrites, orales ou filmiques. Alors j'ai choisi d'exposer les résultats de la thèse en trois parties, à la fois chronologique et didactique, qui mettent en évidence les facteurs d'élaboration, de stabilisation, puis de division de la mémoire de l'antimafia. Alors je me limiterai ici à présenter les conclusions de ce travail, mais je serais ravie évidemment de revenir sur des exemples plus précis lors de la discussion. Alors tout d'abord, on s'intéressera à la construction de la mémoire immédiate suite aux omicidi e celenti. Les omicidi e celenti, c'est donc le fait de tuer un représentant de l'État. Puis nous observerons la construction et l'institutionnalisation d'une mémoire qui devient publique à travers les commémorations. J'espère avoir le temps de développer un peu plus en détail l'évolution des représentations, qui me semble être un aspect intéressant. Et enfin, nous verrons que cette mémoire de l'antimafia apparaît avant tout comme une mémoire tourmentée. Alors, en ce qui concerne le contexte politico-criminel, au début des années 60, l'existence de la mafia est farouchement niée par les membres de la Democrazia Cristiana, et alors que les forces de gauche font de la lutte contre la mafia l'argument principal de leur combat contre la majorité. L'analyse des usages langagiers au lendemain des omicidi e celenti démontre la gêne, voire l'incapacité des gouvernants et des parlementaires de la majorité à nommer la mafia, et donc leur réticence à faire de la lutte contre la mafia une priorité de la politique nationale. Les rapports complaisants de la Dici avec la mafia ne sont plus à démontrer, mais ils ont donc garanti l'impunité à la mafia pendant très longtemps. Et ces rapports complaisants mettent donc au jour un contexte hostile et périlleux, donc pour ceux qui combattent la mafia, donc que ce soit dans les forces de l'ordre ou dans la magistrature. La modernisation des activités criminelles de la mafia provoque une remise en cause des équilibres internes, qui débouche sur un premier conflit en 62-63, puis sur une deuxième guerre plus intestine, plus meurtrière, de 1978 à 1983. On compte à peu près 1000 morts pour cette guerre de mafia. La faction des Corléonais prend alors les commandes de l'organisation et est assez robuste pour engager en parallèle une offensive de grande ampleur contre les représentants de l'État. Et ce sont donc eux qui commanditent, entre autres, les assassinats de Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. En ce qui concerne l'emergenza mafiosa de 1982, alors les assassinats de Pio La Torre et Carlo Alberto Dalla Chiesa constituent les deux temps forts de cette crise de violence mafieuse. L'étude de la construction de la mémoire immédiate fait clairement émerger les caractéristiques proches à chaque victime, à chaque victime. Alors Pio La Torre est défini avant tout par son appartenance politique, tandis que pour Carlo Alberto Dalla Chiesa, c'est l'isolement politique et institutionnel dont il a été victime qui devient la clé de lecture principale de son séjour palermitain. Ces deux meurtres déclenchent de fortes réactions civiles qui tranchent avec l'inertie des gouvernants face à l'emergenza mafiosa. Si les réactions face à l'assassinat de Pio La Torre et son chauffeur sont presque toutes confinées à la seule sphère militante du PCI, les obsèques de Dalla Chiesa et de sa femme sont un moment de forte tension où une partie des palermitains et les responsables politiques jugés responsables de la mort du préfet. Vous avez ici un extrait d'un article du Giornale di Sicilia qui rend compte justement des petit tumulto qu'il y a eu devant la Chiesa di San Domenico. Alors, dans ce contexte donc, de tension, le sermon du cardinal Pappalardo, pendant la cérémonie, constitue justement le point d'orgue de toute la cérémonie, de tous les obsèques, parce que le cardinal Pappalardo exprime en quelque sens l'opinion de la société en disant « si può applicare una nota frase della letteratura latina, je vous épargne mon accent latin, dum Romae consulitur saguntum expugnantur, mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici, e questa volta non è Sagunto ma Palermo, povera Palermo. » Alors le lendemain, exception faite du Popolo, qui est le journal de la démocratie chrétienne, cet extrait est amplement repris dans la presse, justement pour mettre en cause la classe dirigeante, ce qui attise évidemment les tensions. Alors les assassinats de Pio La Torre et Carlo Alberto Dalla Chiesa ont provoqué ce qui s'appelle un choc moral en sociologie. Alors un choc moral, c'est une expérience sociale qui résulte d'un événement inattendu ou d'une modification imprévue, plus ou moins brusque, de l'environnement des individus. Elle implique une réaction très vive, viscérale, ressentie physiquement parfois jusqu'à l'écœurement, la nausée, le vertige. Elle conduit celui qui y est confronté à jauger et à juger la manière dont l'ordre présent du monde semble s'écarter des valeurs auxquelles il adhère. Enfin, cette expérience sociale suscite un sentiment d'épouvante, de colère, de nécessité d'une réaction immédiate qui commande un engagement dans l'action. Alors effectivement, on peut appliquer cette notion de choc moral puisque les autorités et une partie de la société réagissent. Alors on peut parler d'un véritable tournant qui favorise l'émergence d'une conscience civile anti-mafia. Alors d'une part parce que l'État démocratique promeut enfin la loi pour condamner le délit d'association mafieuse, l'article 416 bis, mais par là même il reconnaît l'existence d'une forme de criminalité spécifique, et d'autre part, une frange des palermitains décide de s'engager en s'appropriant les valeurs de l'égalité et de refus de la violence promues par les victimes avant leur mort. On voit donc naître les premiers collectifs anti-mafia, créés par des militants de gauche et des catholiques progressistes. Alors dès lors, selon Salvatore Lupo, on commence à parler de, je cite, l'antimafia des marches, des cortèges, des marches aux flambeaux. Une minorité silencieuse, donc, qui refuse la violence mafieuse et qui souhaite donner une autre image, une image différente de la Sicile. Cependant, l'engagement de l'État, comme celui des citoyens, fléchit au cours des années 80. Ainsi, le printemps de Palerme est balayé par ce qui s'appelle la stagione dei veleni, la saison des venins, un climat délétère qui favorise l'élimination des juges Falcone et Borsellino. L'année 92 apparaît comme une année charnière dans l'histoire de l'Italie républicaine, car plusieurs événements viennent fragiliser l'État. Alors, déjà la fin de la guerre froide, quelques années auparavant, l'arrivée du scandale de Tangentopoli, et évidemment la violence mafieuse. Alors après, le verdict du maxi-procès est confirmé par la Cour de cassation en janvier 1992, et le 12 mars 1992, la mafia exécute Salvo Lima, député européen d'ICI, référent politique national de Cosa Nostra depuis des décennies, et la mafia, par ce meurtre, met donc fin à l'alliance avec la démocratie chrétienne, qui n'a donc pas su lui garantir l'impunité. Puis le 23 mai, la mafia assassine le juge Falcone, sa femme et trois policiers d'escorte, donc dans un attentat spectaculaire sur l'autoroute reliant Palerme à l'aéroport, à la hauteur de Capaci. L'impact médiatique de l'événement est énorme. Les photos de l'autoroute éventrée occupent la première page des journaux, et de nombreux articles s'attardent sur le modus operandi qui ne lui laissait aucune chance. L'étude de la presse fait également émerger les premiers jalons de la mémoire immédiate qui pose les bases de la figure de héros du juge Falcone qu'on retrouvera au fil des commémorations. Alors il est défini d'emblée comme un héros, je vous cite quelques exemples, il est, je cite, l'ennemi numéro un de la mafia, le moteur de la lutte contre la mafia, la cible qu'il fallait éliminer à tout prix, et donc on peut dire qu'il incarne une personnification de la lutte contre la mafia. L'assassinat de Falcone intervient donc dans un contexte politique tourmenté où les rapports entre une partie de la société et des représentants politiques se détériorent suite aux révélations de l'opération main propre. L'explosion de violences mafieuses ne fait qu'envenimer la situation et les représentants des autorités sont pris à partie pendant, aux funérailles des victimes du massacre de Capaci. Alors par la médiatisation des heurts et de la colère de la foule, la presse devient une sorte de caisse de résonance de la contestation civile. À la fois spectatrice et protagoniste, cette foule envahit l'espace physique et par conséquent l'espace médiatique. Contrairement aux obsèques de la Torre et della Chiesa, où les représentants des autorités étaient présents sur presque toutes les photographies, en 1992, ils sont remplacés par la foule qui crie sa colère. L'absence des politiques et l'omniprésence de la foule accentuent encore un peu plus ce sentiment, le sentiment donc qui se dégage des articles, décrivant une classe politique prostrée et impuissante qui, incapable d'affronter la colère populaire, entre, je cite, « par la porte de derrière ». Paolo Borsellino, qui avait grandi jusqu'à présent dans l'ombre de Falcone, se pose en défenseur de sa mémoire et apparaît d'emblée comme son successeur naturel. Alors son assassinat, 57 jours plus tard, le 19 juillet 1992, est donc un nouveau choc pour cette partie de la société fortement mobilisée après la mort de Falcone. Les tensions constatées aux obsèques de Falcone sont exacerbées et se cristallisent même à l'intérieur des institutions, puisque les substituts du parquet de Palerme demandent la démission du procureur et les forces de l'ordre s'en prennent au chef de la police et au préfet. Ainsi, le massacre de Via d'Amelio constitue un véritable point de rupture entre une partie de la société, des gouvernants et certains secteurs des forces de l'ordre. La presse médiatise largement donc le rejet dont sont victimes les représentants des autorités, notamment dans les grands titres des journaux, comme le démontre l'omniprésence de champs lexicaux de la colère, de la rage et de la violence, puisque calci, insulti a scalfaro e amato, vous voyez donc que le titre de Il Tempo, journal de droite, La Repubblica contestata pugni. C'est donc dans ce contexte très tendu que se met en place une mobilisation anti-mafia inédite qui dépasse largement le seul cadre sicilien. Alors les massacres de Capaci et Via d'Amelio constituent donc deux nouveaux chocs moraux. Des dizaines de milliers de palermitains et d'italiens se mobilisent pour montrer leur opposition à la mafia de manière très innovante. Par exemple, des draps apparaissent aux fenêtres après Capaci, une chaîne humaine est effectuée un mois après le massacre, une grève de la faim est également menée par les femmes sur une place centrale de Palerme, après Via d'Amelio. Après les deux massacres, il y a des appels généraux à la grève générale de la part de tous les syndicats. Des bateaux sont même affrétés pour emmener les Italiens du continent manifester à Palerme. Donc l'effervescence de la mobilisation civile entraîne une diversification des formes de mobilisation collective et provoque l'éclosion de nouveaux groupes de militants anti-mafia. Alors, il s'agit d'un moment charnière qui bouleverse les rapports de force. Le fait que les victimes soient des magistrats, une profession qui avait été largement encensée par la presse, dans la presse les mois précédents, pour les succès remportés dans la lutte contre la corruption, alors le fait que ce soit des magistrats, ça affaiblit encore un peu plus la classe politique. Les citoyens mobilisés la considèrent incapable d'enrayer la violence mafieuse, et incapable d'incarner les valeurs qui ont guidé l'engagement des victimes. On observe donc un transfert de légitimité vers la magistrature, qui devient la nouvelle référence morale des citoyens en mal de l'égalité. Ainsi, le mouvement anti-mafia civil naît justement de cette rupture avec les représentants politiques dans leur ensemble, et se construit en faisant du soutien à la magistrature, et donc de la défense de la légalité, son ferment identitaire. Selon Jacques Le Goff, le traumatisme collectif est une notion qui doit, je cite, « prendre place parmi les formes principales de discontinuité historique ». Fin de citation. Car les grands événements, en général, ont un effet traumatique sur les peuples et provoquent des interruptions dans l'histoire d'un pays. Alors ce concept de discontinuité historique s'applique totalement à la situation italienne, car les assassinats de ces quatre personnalités, représentées comme isolées et évoluant dans un milieu hostile, sont vécus comme des traumatismes par une partie de la société. Ce choc moral induit donc une discontinuité historique, puisque la révolte de 1982 est en réalité l'embryon de la contestation de grande ampleur, de la rupture, qui se vérifie en 1992, donc dans les rapports entre une partie de la magistrature, de la politique et de la société. Enfin, l'importante mobilisation civile qui fait suite à ces événements traumatiques est un signe tangible de cette discontinuité, car elle marque la naissance du mouvement anti-mafia civil, qui se construit donc en dehors du politique, témoignant ainsi de l'institution d'un rapport qu'on peut définir de concurrentiel et donc problématique, concernant l'appropriation de la mémoire des victimes. Excusez-moi. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce travail, donc l'institutionnalisation d'une mémoire publique, en s'intéressant tout d'abord à ce que j'ai nommé les gardiens de la mémoire, c'est-à-dire les proches de victimes. Alors, les proches des victimes constituent le noyau de cette Piccolissima Palermo degli Onesti, comme les appelle Giuseppe D'Avanzo, qui est journaliste à La Repubblica. Donc les proches de victimes, ils se posent d'emblée comme les gardiens, comme les véritables gardiens de la mémoire des victimes et concrétisent leur engagement en créant des associations. Les structures sont très différentes, mais chacune vise à promouvoir la mémoire d'une victime en véhiculant les valeurs fortes de son engagement, notamment à travers des programmes éducatifs, dont le but donc est de transmettre la culture de la légalité aux jeunes générations. Mais dès les années 80, les proches de victimes, et en premier lieu les femmes, intervenaient déjà dans les écoles. Donc leurs récits servent également de ciment identitaire au mouvement anti-mafia qui se développe après 92, en particulier avec la création de Libera, qui structure de manière réticulaire la galaxie de l'anti-mafia et qui donne ainsi une dimension collective et donc nationale au mouvement. L'irruption sur la scène publique des mémoires privées modifie sensiblement le rapport privé-public et entraîne ce que Giovanni De Luna appelle une privatisation de la mémoire. Alors la difficulté, voire dans certains cas l'impossibilité d'établir une vérité judiciaire et d'autre part la disparition des référents, des référents mémoriels classiques constitutifs de l'identité républicaine, c'est-à-dire les partis politiques qui disparaissent avec Tangentopoli. Alors tout cela donne une centralité aux victimes dans le processus de construction mémorielle. Elles sont donc à l'origine d'un récit privé qui devient une sorte de narration collective qui s'élabore en dehors du cadre institutionnel lors des commémorations civiles. Alors en effet, l'analyse des rites mémoriels montre, sauf dans le cas de Falcone, une nette séparation entre les commémorations institutionnelles et les commémorations civiles, qui s'explique par le rapport donc concurrentiel entre l'État et les associations, qui est donc le fruit de cette privatisation de la mémoire. Les commémorations civiles, particulièrement riches et innovantes, se caractérisent par la juxtaposition de plusieurs types d'initiatives qui mêlent mémoire et engagement. Par exemple, la Giornata della Memoria e dell'Impegno, organisée par Libera chaque année le 21 mars, ou alors les Navi della Legalità, de la Fondazione Falcone. Alors, ces commémorations se construisent souvent autour de lieux de mémoire, dont certains, comme l'Albero Falcone, deviennent, c'est l'arbre qui était devant le domicile palermitain du juge, donc ces lieux de mémoire deviennent, comme l'Albero Falcone, l'objet d'un véritable culte civil, et posent ainsi le problème d'une religion civile basée sur la mémoire. Alors si les dimensions de certaines commémorations et le culte voué à certains sites semblent plaider en ce sens, il manque néanmoins une véritable cohésion nationale pour pouvoir parler de religion civile. Donc il me semble plus juste de parler d'un processus de construction d'un culte et d'une culture de la mémoire qui est encore in fieri. Alors, l'analyse donc des différentes représentations qui ressortent des publications mémorielles nous a permis de mettre au jour les étapes de la sédimentation sémantique de la mémoire des figures étudiées. Alors, brièvement, l'héroïsation qui est issue de la mémoire immédiate est mythifiée, ce qui conduit donc à sacraliser le héros qui est encore plus sacralisé à l'aube du nouveau millénaire, grâce à l'utilisation d'un cadre référentiel religieux qui irrigue les représentations mémorielles et transforme ainsi le héros en martyr. Enfin, la violence des attentats de 92 a incontestablement changé la perception de la question mafieuse au niveau national, donnant vie à une lecture patriotique de l'engagement anti-mafia qui nationalise les victimes de la lutte contre la mafia. Alors, nous allons illustrer cette évolution des représentations à travers quelques exemples, car il s'agit donc d'un aspect novateur qui caractérise justement la construction mémorielle. Alors, les productions mémorielles, les productions mémorielles écrites ou audiovisuelles confèrent une dimension légendaire aux victimes en mettant l'accent évidemment sur toutes les caractéristiques propres aux héros, c'est-à-dire la naissance, les exploits, l'environnement hostile, le destin tragique. Par exemple, Maria Falcone raconte qu'au moment de la naissance de son frère, une colombe blanche est entrée dans la maison et n'a plus voulu en repartir. So che corro il pericolo di cedere a certe suggestioni, di espormi a facili ironie, ma lo racconto ugualmente perché è vero, senza per questo avallare alcune ipotesi di premonizione o segnali del destino. Subito dopo la nascita di Giovanni, entrò in casa una colomba bianca, arrivò dalla finestra di uno stanzino e non volle mai più uscire. Non era ferita, è rimasta in quella camera e noi l'abbiamo nutrita. Non è mai fuggita, anche se la finestra rimaneva aperta. Alors, tel un signe céleste annonçant l'arrivée d'un prodige, la colombe crée une légende autour de la naissance du magistrat. La prétérition et l'insistance finale sur la permanence de cette colombe chez les Falcone soulignent qu'il s'agit d'un fait exceptionnel. Cette anecdote est largement reprise dans une partie de la littérature de jeunesse. Quand je parle de littérature de jeunesse, c'est souvent des romans qui sont utilisés dans le cadre des programmes éducatifs anti-mafia pour faire connaître les figures. Donc, en particulier dans le roman « Per questo mi chiamo Giovanni », écrit en 2004, le récit de la naissance vise à démontrer le caractère exceptionnel de Falcone. Le père dit à son fils que le nouveau-né, je cite, « ne pleurait pas et il avait les poings serrés ». Et, fin de citation, et ajouté à l'épisode de la colombe, le jeune garçon assimile Falcone à un nouveau-né qui porterait dans ses gènes une prédisposition à combattre la mafia, ce qui contribue donc à forger l'image d'un être héroïque promis un destin extraordinaire. En ce qui concerne les exploits, alors les exploits des magistrats sont souvent soulignés à travers le récit de l'action du pool anti-mafia mis en place à partir de 1983. Cette période apparaît comme une expérience fondatrice dans l'histoire de la lutte contre la mafia grâce au succès historique du Maxi Processo. Et alors, pour insister sur la nouveauté du travail en équipe, le pool est illustré souvent par la métaphore footballistique. Saverio Lodato, qui est un journaliste, décrit Caponnetto comme l'entraîneur, mais une hiérarchie se dessine nettement à l'intérieur de l'équipe, comme l'explique Leonardo Guarnotta, qui était un collègue de Falcone. Eravamo una squadra dove c'era un fuori classe, Giovanni era Maradona. È stato questo il successo del pool antimafia, una vera squadra con i portatori d'acqua che eravamo noi e un fuori classe che era Falcone. Alors, il est important de souligner que cette métaphore de Maradona vient en fait d'une menace typique du style mafieux prononcée par Michele Greco, detto il Papa, prononcé à l'encontre de Falcone pendant un interrogatoire, puisque Greco lui a dit « Signor giudice, lei è davvero bravo, lei è il Maradona dei magistrati, per toglierle la palla bisogna farle lo sgambetto ». Alors cette assimilation cocasse est amplement reprise en particulier dans la littérature de jeunesse, puisqu'elle met en évidence évidemment le leadership de Falcone et contribue évidemment à alimenter la personnification de la lutte contre la mafia. Un autre élément qui contribue à créer des figures, à héroïser les figures, c'est évidemment les rythmes de travail harassants qu'ils avaient. Hein, c'est une caractéristique qu'on retrouve, qui est développée pour beaucoup de victimes de la mafia, et souvent mis en avant par les proches. Alors, comme le rappelle son fils, Borsellino avait l'habitude de dire qu'il se levait à 5h du matin pour, je cite, « fottere il mondo con due ore di anticipo ». De même, Attilio Bolzoni, journaliste, décrit les journées de travail de Falcone en insistant sur le fait qu'il se lève tôt, lui aussi à 5h, et qu'il fait du sport. Alors la pratique d'une activité sportive est loin d'être anecdotique. Elle renforce l'image d'un champion qui s'entraîne évidemment pour avoir une endurance qui lui permet d'affronter ses longues journées de travail qui ne se terminaient jamais avant 21h. 21h, c'était l'heure fatidique à laquelle les collègues de Falcone entraient dans son bureau pour lui annoncer la fin de la journée. Et il répondait toujours la même phrase, que je trouve très belle. « Le nove, togliamo il disturbo allo stato. » Alors, la mémoire immédiate, bâtie et véhiculée par la presse, a tellement contribué à personnifier la lutte contre la mafia autour de la seule figure de Falcone qu'une représentation équilibrée du binôme Falcone-Borsellino semble presque impossible. Toute l'attention se concentre sur Falcone, figure de proue de la bataille, et Borsellino reste dans l'ombre. Évincé par la figure de Cassara, qui est un policier assassiné en 1985, il est même totalement ridiculisé dans la fiction en deux épisodes réalisée pour la RAI en 2006 sur Falcone. Puisque tandis que Falcone travaille jour et nuit, Borsellino, comme le Michelazzo du proverbe vénitien, ne pense qu'à manger, boire et dormir. Alors il y a plusieurs scènes totalement irréelles qui discréditent Falcone et font de Borsellino et font de Falcone un homme infatigable, livrant ainsi une représentation complètement faussée du binôme. Alors pour l'anecdote par exemple, Falcone appelle Borsellino de New York en pleine nuit pour lui demander de faire des recherches sur un mafieux et face au manque de réactivité de Borsellino, il s'énerve, il dit minchia Paolo, ma sempre a dormire stai, et Borsellino lui raccroche au nez. Alors après quand il rentre de New York, il lui demande donc si le résultat des recherches. Et Borsellino répond subito, dai lasciamo per domani che Agnese ha cucinato il pesce. Alors, en outre, la production éditoriale récente, notamment par le biais de la bande dessinée, élève l'expérience du pool anti-mafia au rang de mythe en l'inscrivant ses récits donc, dans des traditions littéraires spécifiques, comme la fable, avec l'animalisation des personnages, que vous pouvez voir ici, c'est des planches extraites de Un fatto umano, ou encore en recourant à l'épopée, un genre très utilisé. Ça, voilà les premières pages de la bande dessinée Un fatto umano. Alors, l'épopée, genre très utilisé, puisque d'une part, la matière du récit repose sur des événements historiques, et d'autre part, leur mise en récit et en image donne corps à la légende. Pour reprendre les mots de Nicolas Rouvière, la bande dessinée, au même titre que les représentations, est, je cite, « l'expression d'une mémoire bien plus que d'une histoire ». Elle nous livre donc l'image d'une période désormais perçue comme un âge d'or de l'antimafia, ce qui alimente évidemment la dimension héroïque des magistrats qui y ont participé. Alors, au-delà de la mythification, l'insistance, en particulier dans la poésie sicilienne et dans les témoignages des proches, sur l'adversité et le destin tragique des protagonistes, les rapproche évidemment du modèle christique. L'omniprésence d'un cadre référentiel religieux, considérablement renforcé par l'utilisation du vocabulaire biblique, donne à ce florilège éditorial des allures d'hagiographie laïque. En outre, le renouvellement du martyrologe chrétien lancé par l'Église catholique à la fin des années 90 entraîne un élargissement sans précédent de la notion canonique du martyr chrétien tué in odium fidei. L'assimilation entre la foi et la justice, et donc entre le combat pour la foi et celui pour la justice, pose les prémices théoriques permettant l'insertion de nouveaux martyrs dans le martyrologe chrétien. Ainsi, en 93, dans la vallée des Temples à Agrigento, après avoir rencontré les parents du juge Livatino assassiné en 1990, le pape Jean-Paul II inclut Paolo Borsellino et Rosario Livatino dans la liste des martyrs, définie au sens large comme, je cite, « tous ceux qui, pour affirmer des idéaux de justice et de légalité, ont payé de leur vie leur engagement contre les forces du mal ». Fin de citation. Cette lecture chrétienne et manichéenne transforme la lutte contre la mafia en une sorte de croisade morale, une guerre sainte, et sacralise ainsi toutes les victimes. Enfin, les représentations mémorielles véhiculent également une lecture patriotique de l'engagement anti-mafia. L'exaltation des vertus civiles des victimes de la mafia, dans les représentations ou lors des commémorations, passe par la mise en exergue d'éléments biographiques qui, au vu du contexte de l'époque, permettent de souligner les valeurs qui ont guidé leur engagement. Par exemple, le sens de l'État, le sens du devoir, la défense de la légalité. Ces valeurs sont ensuite intégrées dans un système éthique qui dépasse largement le seul combat contre la mafia et offre un cadre référentiel plus vaste, ravivant ainsi les principes fondateurs de l'identité républicaine. L'attachement à la justice, au bien commun et donc in fine à l'État, ainsi exalté, participe donc de l'héroïsation des figures de la lutte contre la mafia qui prennent alors une dimension nationale. La lecture sacrificielle de leur engagement transforme les héros en martyrs, puis en patriotes, puisqu'ils se sacrifient pour les citoyens, pour garantir leur liberté et leur tranquillité. Selon Marcello Ravveduto, qui est chercheur à l'université de Salerno, je cite, « La stratégie des massacres de Cosa Nostra déplace le mouvement anti-mafia dans le camp de la résistance, c'est-à-dire qu'elle stimule la conscience nationale à défendre les valeurs fondatrices de la République. » Alors, cette lecture patriotique constitue un levier, car elle permet, d'une part, l'insertion de la mémoire de la lutte contre la mafia dans la mémoire plus globale de l'Italie républicaine, comme en témoigne d'ailleurs le rapprochement entre antifascisme et anti-mafia par toutes les initiatives menées conjointement par Libera, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, l'Istituto Alci dei Cervi. Et d'autre part, cette lecture patriotique permet aussi une nationalisation des figures de la mafia, d'accord, qui est renforcée par les commémorations de 2012. Par exemple, quand j'étais sur la nave della Legalità, j'ai pu donc constater, j'ai eu moi aussi mon petit sac avec tous mes accessoires du parfait militant, avec la distribution donc, d'un petit drapeau tricolore à tous les passagers de la nave, le chant de l'hymne national devant le bateau avant le départ de Civitavecchia, ou alors la photo, par exemple, que vous voyez, de cette photo très célèbre, donc des deux magistrats munis de la légende Giovanni e Paolo, due italiani, en guise de logo, et aussi il y avait une omniprésence de ballons vert, blanc, rouge, hein, on a fait des lâchers de ballons en arrivant dans le port de Palerme, sous l'Albero Falcone, enfin il y avait vraiment cette... on sentait vraiment ce désir de, d'inscrire cette commémoration, d'en faire une commémoration nationale. En parallèle des processus de mythification puis de sacralisation des victimes, on voit aussi se développer un mouvement complètement inverse dans la production mémorielle récente, ce qui fait naître évidemment une dichotomie entre les figures des héros martyrs et celles des hommes qu'ils étaient. Il s'agit certes d'une tendance minoritaire, mais qui n'en demeure pas moins significative, car elle enrichit la sédimentation sémantique de la mémoire des victimes en révélant ainsi leur figure privée. Ce nouveau paradigme, donc, qui désacralise les figures de héros martyrs pour construire celles d'hommes normaux et familiers, reflète l'évolution des paramètres des représentations des hommes politiques mis en évidence par Fabrice d'Almeida. Le processus de naturalisation ayant pour but de renouveler le rapport des hommes politiques avec l'opinion publique, on peut supposer qu'il en va de même pour les victimes de la mafia. Alors là, vous avez un graphique sur la présence des photos dans les ouvrages mémoriels, sur les quatre victimes, évidemment, qui nous intéressent. On va passer directement aux résultats. Alors on voit émerger, donc, en particulier après 2007, hein, vous pouvez voir surtout après 2007, donc on observe un renouvellement donc significatif de la narration mémorielle grâce avant toute chose à la prise de parole directe des proches qui conditionne largement les représentations. D'une part, on observe une première phase de normalisation, donc une phase de normalisation dans laquelle on donne à voir des ébauches de l'intimité des victimes, notamment à travers l'utilisation de documents privés inédits, qu'ils soient écrits ou iconographiques. Et évidemment, ces documents privés et inédits renouvellent les représentations et font émerger une image privée, souvent fragmentaire, qui vient compléter ou nuancer l'image publique qu'on connaît. Par exemple, les lettres d'amour enflammées de Dalla Chiesa à sa femme nuance un petit peu l'image du carabiniere très rigide du préfet qui mène de front la lutte contre le terrorisme et contre la mafia, évidemment. Christian Delporte a montré qu'en politique, je cite, « l'exposition de l'intimité s'inscrit dans une stratégie de pipolisation », fin de citation. Les reportages photographiques révèlent donc, relèvent donc d'une stratégie de communication séductrice visant à construire un lien affectif avec les électeurs, ce qui est, selon Delporte, je cite, la condition de la longévité politique. Alors si l'on applique cela aux victimes de la mafia, on peut dire que cette pipolisation participe de la construction d'une longévité mémorielle. Jusqu'alors, les photographies dont on disposait étaient des photographies prises dans le cadre de leur activité professionnelle, donc empreintes d'une certaine dignité. La publication de photographies privées confirme donc le passage de la représentation d'une posture officielle à celle d'une figure plus naturelle, souriante et donc plus proche du citoyen lambda. Le processus de naturalisation mis au jour par Dalméda passe par, je cite, « l'exaltation des conduites les plus simples et les plus communes ». Fin de citation. Alors, comme, et c'est justement le cas dans les corpus iconographiques publiés, puisqu'on y voit les victimes en repas de famille, torse nu à la mer, à la pêche, à la plage, sur des vélos. Donc, voilà, et on remarque ça, et surtout entourés de leurs proches. Alors ça, c'est une caractéristique, vous voyez, c'est tout ce que vous pouvez avoir en rouge, et ça se voit surtout pour Borsellino, sur les trois derniers ouvrages, vous voyez que la proportion de photos qui le montrent dans des scènes intimes ou de loisirs, de vacances, est de plus en plus importante jusqu'en 2012. Alors l'étude statistique donc, des corpus photographiques confirme donc une pipolisation des victimes, alors à l'exception de Pio La Torre, hein, qui reste toujours très communiste et on ne mélange pas privé et public. Mais donc la plupart sinon sont représentés dans l'intimité familiale pendant des moments de détente. D'autre part, la mise en récit ou en image de leur vie quotidienne au moyen des anecdotes et de la bande dessinée livre une représentation intimiste et désacralisante des victimes. L'humanisation des héros, par exemple Falcone et se brossant les dents, ou Falcone et discutant avec sa femme dans leur lit. Oui, donc l'humanisation des héros est renforcée par la démystification des proches, qui rejettent en bloc l'étiquette de héros, et tout cela évidemment alimente la construction de figures familières, donc le père, le mari, le frère. Et tout cela, évidemment, participe de la création de modèles accessibles pouvant permettre à la société de s'identifier aux victimes, et tout cela, évidemment, dans le but de s'approprier les valeurs qui ont guidé leur engagement. On peut sans doute parler d'un processus culturel, car il s'inscrit évidemment dans la continuité de la culture chrétienne, de la représentation de Dieu à travers le personnage humain du Christ, qui était donc la transformation nécessaire pour accepter et intégrer le modèle céleste. Bien que structuré et institutionnalisé par les associations, les commémorations et les représentations, la mémoire de la lutte contre la mafia est cependant une mémoire profondément tourmentée, et nous allons voir maintenant quels sont les facteurs de division de la mémoire. Alors la justice, j'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails des processus judiciaires, mais en gros l'analyse globale des mobiles a fait émerger une constante. Alors, il y a des mobiles propres aux assassinats de chaque victime, mais en gros, les meurtres excellents, évidemment, ont été décidés par les organes décisionnels de Cosa Nostra, ce qui a été validé donc, au cours des procès. Et donc, le but des mafieux était évidemment de sanctionner l'action anti-mafia de la victime. Alors, l'étude en général des procès, excusez-moi. L'étude des procès donc, ne fait que confirmer l'apport essentiel des collaborateurs de justice, car sans leur confession, la justice est bien souvent dans l'incapacité de trouver les coupables et de retrouver donc les exécutants des crimes. Par exemple, pour le massacre de Capaci, c'est la vague l'ondata di pentiti qu'il y a eu à partir de septembre-octobre 92 qui a permis d'avancer sur l'instruction du massacre de Capaci. Et les témoignages étaient attendibles, il n'y a pas eu de problème, et ils ont donc porté à la condamnation de toute la cupola pour avoir commandité le massacre. En revanche, si on prend l'exemple de Via D'Amelio, il y a eu des déclarations de faux repentis qui ont conduit à un dépistage sans précédent de l'enquête. Dépistage qui a été validé par 9 procès, c'est-à-dire il y a eu 3 procès différents, Borsellino, Borsellino bis, Borsellino ter, et 3 procès pour tutti tre gradi di giudizio. Et donc tout cela a été validé par 9 procès, jusqu'à ce qu'un autre repenti, en 2008, Caspar Spatuzza, démontre que cette vérité judiciaire était totalement fausse, obligeant ainsi la magistrature à reprendre à zéro l'instruction, évidemment à l'aune des révélations sur la trattative. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus plus tard. Mais donc, en général, les révélations des repentis donc, sont de toute façon problématiques, mais elles sont surtout très médiatisées dans la presse, et on remarque qu'elles prennent même le pas sur, sur la chronique des procès, c'est-à-dire qu'on parle plus des témoignages des repentis que des procès eux-mêmes. Au moment des commémorations, les procès passent clairement au second plan. Pour autant, ce manque de médiatisation et donc de visibilité des procès ne signifie pas que les médias se désintéressent du volet judiciaire. Au contraire, depuis une dizaine d'années, de nombreux journalistes tentent de combler les lacunes judiciaires et proposent de nouvelles interprétations, certaines sérieuses, d'autres farfelues, qui influent fortement sur la construction mémorielle. Ainsi, si on pense par exemple à la Gente Rossa di Paolo Borsellino. Ainsi, donc, ce n'est plus la justice qui apparaît comme un vecteur mémoriel, mais bien l'impossibilité d'arriver à une vérité judiciaire qui devient un vecteur structurant d'une mémoire alternative qui va se construire en dehors de la mémoire judiciaire et qui se révèle donc très perméable aux lectures complotistes. La rupture entre une partie de la société et de la classe politique que nous avons évoquée précédemment et l'incapacité de la justice de fournir des réponses exhaustives aux familles apparaissent donc comme les deux raisons principales du regroupement, des proches en association et donc de l'établissement d'un culte de la mémoire qui échappe aux institutions. La mémoire des victimes peut être utilisée aussi de manière paradoxale, en amenant par exemple vers la politique une figure neutre comme celle de Dalla Chiesa, notamment lors du procès d'Andreotti en 93-95, ou au contraire, elles peuvent amener à faire perdre, par exemple, sa charge éminemment politique à une figure comme La Torre, à un moment où l'héritage communiste est très disputé au sein de la gauche, et même surtout, ils font surtout en sorte de ne pas l'avoir, l'héritage communiste. Donc la figure de Pio La Torre perd un petit peu sa charge politique. L'instrumentalisation du nom des victimes, surtout lorsque leurs proches s'engagent en politique, on se rappelle de Umberto Bossi qui parlait de Nando dalla Cosa Nostra au lieu de Nando dalla Chiesa, très délicat. L'instrumentalisation donc, du nom des victimes montre combien la quête de légitimité du politique passe par la récupération des valeurs positives que les victimes incarnent, par rapport, par exemple, Silvio Berlusconi, fraîchement élu en 94, qui va sonner via d'Amelio Cerita Borsellino pour lui demander, lui dans la rue, qui dit « Signora, cosa posso fare per la lotta alla mafia ?» Donc là, c'est évident qu'il essaye de gagner sa légitimité pour lutter contre la mafia. Alors de même, si la toponymie confirme la dimension nationale acquise par les figures, il s'agit quand même du secteur le plus soumis à l'instrumentalisation politique, l'instrumentalisation du politique, puisque en exerçant cette prérogative, les hommes politiques tentent de légitimer leur action, au nord comme au sud. On pense par exemple à la polémique pour l'intitulation de l'aéroport de Comiso en Sicile, qui est intitulé à Pio La Torre, puis remis au nom du hiérarque fasciste à qui il était intitulé avant, puis remis au gré des changements de la giunta municipale. Ainsi, donc, pour le dire avec Laurie Kenton, je cite, « Les commémorations, si elles contribuent bien à définir les identités et les légitimités politiques, n'en restent pas moins le révélateur de tensions et de conflits. » Fin de citation. L'étude des usages politiques de la mémoire laisse donc apparaître une dimension fortement polémique de la mémoire de l'antimafia, qui va caractériser justement toute la construction mémorielle. Le déficit de légitimité de la classe politique est tel que, lors des commémorations, que les commémorations deviennent donc le moment privilégié pour tenter de récupérer ce prestige perdu. La mémoire de l'antimafia est donc utilisée par le monde politique pour affirmer son action antimafia, pour légitimer son action politique et donc, in fine, pour affirmer sa légitimité. Alors, les commémorations décennales, en particulier celles de 2002 et 2012, hein, ont fait l'objet, donc les commémorations décennales en général font l'objet d'une médiatisation plus forte qui permet donc d'étudier, qui donne l'occasion de faire un bilan de la construction mémorielle. Alors, en 2002, l'attention n'est plus focalisée sur la vie des victimes, car les célébrations sont parasitées par l'actualité politique. Les victimes sont instrumentalisées par le pouvoir en place, donc Berlusconi à l'époque, alors pour stigmatiser la magistrature, d'accord, mais elles sont aussi instrumentalisées par les magistrats pour critiquer le pouvoir politique. Et donc tout cela évidemment contribue à raviver les tensions dont on a déjà parlé en 1992 entre une partie de la classe politique, de la société civile et des magistrats. La baisse d'intérêt pour la biographie des victimes reflète une baisse d'attention du politique envers la question mafieuse, et on peut donc parler de refoulement de la mémoire de l'antimafia au niveau politique. En 2012, on note un intérêt renouvelé pour les figures, comme le démontre la profusion de publications mémorielles, de dossiers spéciaux dans la presse. L'actualité criminelle, donc l'attentat de Brindisi, qui a eu 2 jours avant la célébration du 20e anniversaire de Capaci, donc une bombe placée devant un lycée qui blesse une dizaine de lycéens et tue une lycéenne. Donc cette actualité criminelle conditionne la célébration du 20e anniversaire de Capaci, et on remarque ainsi, on peut dire que ça marque la fin de la suprématie mémorielle de Falcone sur les autres victimes. Et on remarque par ce rapprochement également qu'on perçoit désormais la perception d'une seule et même période historique qui unit les attentats de Falcone et de Borsellino au massacre de 1993 qu'il y a eu sur le continent. C'est-à-dire que la mafia a placé des bombes à Rome, Milan et Florence en 1993. Alors si avant on parlait du massacre de Capaci, du massacre de Via D'Amelio, et des attentats sur le continente, maintenant, à partir de 2012, on a vraiment la perception d'une seule et même période historique, puisqu'on parle du biennio del 92-93. Alors, de plus, l'actualité judiciaire, évidemment, tout le feuilleton du procès Borsellino et les révélations sur la trattativa, permet aussi de déplacer la focale sur la vie des victimes, puisque si on s'intéresse à la trattativa, on s'intéresse à la période qui sépare la mort de Falcone et de celle de Borsellino, et du coup on revient à la figure de Borsellino. L'impossibilité d'arriver à une mémoire judiciaire entraînant donc la construction d'une mémoire alternative qui est portée par les proches, la commémoration civile apparaît comme le lieu de construction de cette mémoire publique qui se fait, je me répète, en dehors du judiciaire, du politique, et qui cristallise ainsi les tensions de l'Italie républicaine. Je ne sais pas où j'en suis, question de temps.
Tu as parlé, ouais, c'est ça, moins d'une heure, donc t'as peut-être
du temps. Ah, j'ai du temps, alors. Donc, en conclusion... conclusion un peu longue, c'est pour ça que je demande avant.
Géométrie variable.
Alors je vous dis, ça, tout ça fait émerger des tensions, ça cristallise des tensions de l'Italie républicaine. Alors les tensions de l'Italie républicaine, la mémoire en gros apparaît comme un catalyseur, on va dire, des tensions de l'Italie républicaine. On remarque avant tout une tension entre le local et le national. Alors de nombreux éléments comme l'onomastique, donc la toponymie, ou la réalisation de mini-séries pour la télévision, démontre l'insertion de cette mémoire de l'antimafia, initialement locale, dans la mémoire nationale. Les initiatives comme la Giornata della Memoria ou les Navi della Legalità visent à impliquer les jeunes du continent pour consolider la dimension nationale de la mémoire. Toutefois, l'exercice de cette mémoire met justement au jour des tensions entre local et national. L'étude récente de Nando Dalla Chiesa sur Libera montre que les jeunes présents lors de la journée de la mémoire et de l'engagement viennent en grande majorité des régions où la présence mafieuse est récente, révélant ainsi le paradoxe d'une mémoire locale qui devient nationale et est célébrée majoritairement par des septentrionaux. La forte tradition militante des régions de gauche du centre et du nord, donc qui sont souvent des hauts lieux de la résistance, est également un facteur d'intégration de cette mémoire locale dans l'histoire nationale, et donc un puissant vecteur de nationalisation du mouvement anti-mafia. Les campagnes de sensibilisation menées en particulier par Libera dans les régions centrales et septentrionales ont porté leurs fruits, mais il semble que cette prise de conscience s'accompagne donc d'un désengagement progressif des jeunes issus des régions méridionales. Alors ces données posent évidemment le problème de l'efficacité d'une mémoire qui, alors qu'elle devient nationale, perd de l'influence au niveau local. Le deuxième point de tension, donc, c'est politique et société. Donc la crise de légitimité qui frappe une large partie de la classe politique conditionne la construction d'une mémoire publique de la lutte contre la mafia en accentuant l'opposition morale entre les victimes et les élus. La presse, dans son ensemble, joue un rôle de premier plan car elle soutient largement la mobilisation civile et l'hypermédiatisation des événements exacerbe les tensions au début des années 90, puisque la quasi-totalité de la classe politique est perçue comme le parangon du clientélisme et de la connivence, tandis que les victimes de la mafia incarnent des valeurs positives de justice, d'éthique, de morale, qui s'opposent évidemment en tout point aux mœurs de la classe politique. La culture de la légalité propose un modèle civil d'éthique publique qui entre en conflit avec l'image de cette classe politique. C'est pourquoi le mouvement anti-mafia, né de cette rupture, se construit donc en réaction aux politiques et en dehors du politique. Les fréquentes tentatives de récupération, voire d'instrumentalisation de la mémoire des victimes, témoignent de cette volonté constante d'une partie des représentants politiques de s'intégrer au nouveau modèle pour garantir leur moralité. Alors, le mouvement anti-mafia se caractérise par un rapport paradoxal aux institutions. Les manquements de la justice alimentent la défiance envers une large partie du pouvoir politique, accusé de bloquer la recherche de la vérité pour protéger ses intérêts, mais pas envers la magistrature, qui devient en revanche la seule institution de référence. La perte de crédibilité du pouvoir politique provoque ainsi donc un transfert de prestige et de légitimité, souligné par plusieurs chercheurs comme Antoine Vaucher ou Alessandro Silli. Ces chercheurs donc qui mettent en avant le rôle de suppléance endossé par la magistrature. Cette institution apparaît donc comme la garante des valeurs morales et son combat contre l'illégalité diffuse en politique ne fait que renforcer cette image. À partir du milieu des années 90, une partie des représentants politiques tente de reprendre la place qui était la sienne en attaquant la magistrature dans les médias. À un moment où l'enjeu est de restaurer la confiance, les mesures adoptées par le centre-gauche, par exemple, dans la deuxième moitié des années 90, pour limiter l'influence de la magistrature sur la vie politique, sont interprétées évidemment par les citoyens mobilisés aux côtés des magistrats comme une tentative supplémentaire de la part des gouvernants d'évincer la magistrature pour se protéger et mieux revenir aux anciennes pratiques de complaisance. Puis évidemment le conflit s'intensifie et atteint son paroxysme sous les différents gouvernements Berlusconi suite à l'adoption de mesures législatives qui annulent les délits financiers et nuisent donc fortement à la lutte contre la mafia. Donc l'action convergente, bien que non assumée des gouvernements de centre-gauche et de centre-droit, même si les motivations n'étaient pas les mêmes, tout cela ne fait qu'alimenter l'amalgame et conforte la vision certes réductrice, mais largement répandue au sein du mouvement anti-mafia et dans les secteurs de la société mobilisée, donc vision selon laquelle la classe politique dans son ensemble œuvre pour se mettre à l'abri de la justice. La mémoire publique de la lutte contre la mafia cristallise donc les tensions entre trois logiques, si jamais vous n'avez pas compris.
Ah, mamma mia, mi rendo conto che...
Donc, celle qui émane de la magistrature en charge des procès anti-mafia, celle des référents politiques désireux de rééquilibrer le rapport de force entre les pouvoirs institutionnels et celle des secteurs de la société attachés aux valeurs démocratiques. D'accord ? Et tout cela fait ressurgir évidemment le rapport problématique entre la justice, l'histoire et la mémoire. La justice ne permet pas d'établir une vérité satisfaisante pour les proches. Et c'est donc à partir de ces défaillances que prospèrent les lectures complotistes. Les manquements de la justice sont donc un vecteur structurant donc, de cette mémoire alternative dont j'ai parlé. Les révélations des repentis sur la trattativa laissent entrevoir une possible participation de certains membres, encore non identifiés à ce jour, des services secrets. Et tout ça, évidemment, entraîne une relecture globale de la période 92-93. Les nombreuses zones d'ombre restante, en particolier la question des commanditaires des omicidi e celenti. Okay, non, si ça, c'est ci sono, s'il y a des commanditaires politiques ou pas. Donc la question des commanditaires, les documents qui ont mystérieusement disparu, ou même le dépistage éclatant sur l'enquête du massacre de Viadam à Elio. Donc tout ça nourrit l'idée de complicité institutionnelle impunie, car protégée par les dirigeants, et rapproche en ce sens la mémoire de la lutte contre la mafia de celle d'autres grands événements traumatiques de l'histoire de l'Italie républicaine, comme les massacres à matrice néofasciste des années de plomb. La mémoire de l'antimafia se greffe donc sur une approche plus ancienne de l'histoire républicaine qui ne fait qu'alimenter la défiance envers une large partie du monde politique. Et l'absence de vérité judiciaire empêche l'élaboration d'une histoire qui rendrait pleinement compte des dynamiques ayant conduit aux assassinats. La commémoration civile apparaît comme le lieu privilégié de la dénonciation d'une histoire tronquée et de la revendication du besoin de justice, posant ainsi la vérité judiciaire comme préalable nécessaire à l'établissement d'une vérité historique. Or, tout en plébiscitant la justice, les proches de Borsellino, le frère et la sœur en particulier, profitent de l'écho médiatique des commémorations pour proposer une lecture historique qui s'affranchit des non-lieux judiciaires et cristallise les tensions avec le pouvoir politique accusé d'inertie, de connivence, voire de complaisance, de complicité. Donc, un récit... Et donc on remarque qu'un récit collectif relatant l'expérience des victimes a fini par être tissé grâce au témoignage des proches et des magistrats, hein, qui témoignent, magistrats antimafia, toujours très présents lors des commémorations. Ce récit répond donc à la fois au silence de la justice et à une parole officielle établie par les discours politiques, les discours des représentants politiques, donc une parole officielle qui se révèle incapable d'apaiser les tensions. La narration mémorielle collective devient ainsi le principal vecteur d'élaboration d'une histoire publique de l'antimafia, alternative à la vérité judiciaire, qui met en avant l'attitude ambivalente de l'État et régénère les tensions entre une partie de la magistrature, de la classe politique et de la société civile. Et je vous remercie.